Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Ces bruits de succion, ces grésillements, ces soupirs sont ceux que font deux fumeurs d'opium à quelques centimètres de moi. Ils sont allongés face à face sur une natte dans le coin le plus sombre d'une maison monde.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Depuis le 1er janvier dernier, le commerce du cannabis est légal dans l'État du Colorado, aux États-Unis. Les citoyens ont voté cette décision par référendum contre la volonté de leur gouverneur. L'Uruguay, en Amérique latine, vient d'aller dans le même sens. Et si en France l'opinion publique et les pouvoirs politiques paraissent encore rétifs à un pareil bouleversement, les controverses, chez nous, sont désormais animées. Et on constate qu'elles renvoient tout droit à celles qui, depuis plusieurs siècles, ont entouré la consommation de l'opium en Orient, en Chine, au premier chef. L'opium qui sera donc le thème de cette émission. Comme le cannabis, et plus encore peut-être, l'opium a été entouré de toute une atmosphère, le plaçant tout à fait à part de ces autres drogues que peuvent être l'alcool et le tabac. En 1957, Roland Barthes, dans son ouvrage fameux intitulé « Mythologie », évoquait la pipe à opium comme, je cite, « un symbole obligé de la cynité ». Il avait été sûrement un lecteur attentif du Lotus Bleu d'Hergé. Comme le cannabis et comme d'autres stupéfiants qui sont répandus sur toute la planète aujourd'hui, l'opium a été l'objet de beaucoup de trafics souterrains voués à faire prospérer une pègre multiforme et des brigandages délétères. Comme le cannabis, l'opium a été toujours considéré simultanément selon un regard moral et selon des appétits économiques. Comme le cannabis et comme les autres stupéfiants, l'opium est devenu un enjeu international, provoquant entre les États des affrontements de diverses natures, parfois très violents, dans un climat de forte hypocrisie et de fréquent cynisme. Xavier Paulès, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine, est mon invité ce matin. Je ne sais pas, à vrai dire, s'il a consommé de l'opium, je suis trop discret pour le lui demander, mais je sais qu'il a publié deux bons livres sur ce sujet, ce qui suffit assurément à légitimer sa présence à ce micro. Et d'abord, pour commencer, Jean Cocteau. Avant un poème de lui, un poème de 1925, « Prairie légère ».
J'ai jadis fait usage d'un remède onirique, l'opium, remède qu'on a tendance à confondre avec une drogue. J'écrivais un jour « L'esprit du fumeur bouge immobile comme la moire ».
Être de l'opium les prairies légères, il n'y a rien de tel pour un cœur trop blessé. On veut me réapprendre la vie étrangère et que j'invite au bal les filles à danser. On veut me changer d'elles, en somme. J'avais à mon esprit des ailes de fumée. On veut que repoussent mes ailes d'homme, ce qui fait mal, surtout à la fin des journées. Mes ailes, cela coûte un prix fou chaque plume. Jadis, la pipe, elle est l'oiseleur oiselé. J'étais liège sur l'eau, nuage en l'air, écume, je montais, étendu sur le tapis ailé. Qu'il est cher à notre esprit chagrin le pavot sinueux couronné de ses grains. Je possédais l'arbre céleste des artères. Le silence est musique aux flûtes de bambou. Mais les bourreaux chinois veulent me faire taire et caressent la mort pour en venir à bout. Le songe, aboutissant aux rizières de Chine, il fallait longer la muraille de Pékin. Les docteurs de Paris réparent la machine. Et dehors, j'aperçois rôder jaune coquin.
Xavier Paulès, bonjour.
Jean-Noël Jeannet, bonjour.
Ce poème a été lu en 1963 par Raymond Faure. On y voit l'histoire d'un amour pour l'opium, d'une addiction, dirait-on peut-être d'un point de vue moral, chez Jean Cocteau, et ensuite d'une désintoxication, les docteurs de Paris. Est-ce que l'on trouve là, d'entrée, le monde de l'opium? Vous vous y reconnaissez à partir de toutes vos lectures et tous vos travaux?
On retrouve avec Cocteau les derniers feux des élans littéraires occidentaux sur l'opium, en fait, je pense. Et on a là un représentant tout à fait remarquable d'une littérature consacrée à l'opium comme facteur de création artistique, comme facilitateur d'une exploration, d'une investigation intérieure. Et à ce titre-là, on peut dire, je pense, que Cocteau est représentatif de l'Occident et d'un regard porté par l'Occident sur l'opium totalement différent de celui des Chinois. C'est-à-dire que pour les Chinois, l'opium n'est pas du tout une occasion d'investigation artistique, c'est pas du tout une occasion, un thème important d'un point de vue de la création littéraire. Donc là, il y a un décalage tout à fait remarquable entre l'Occident et la Chine, qui est intéressant de relever et de souligner.
La mythologie est du côté occidental. C'est, au fond, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que dit Roland Barthes à propos de la pipe d'opium comme symbole de la sinité. Enfin, on peut être d'accord si c'est une idée fausse qui est nourrie en Occident, mais sur la manière dont la Chine a pratiqué l'opium, erreur.
Je pense qu'effectivement, il y a une erreur. Et c'est surtout quelque chose qui ferait particulièrement horreur aux Chinois, à leurs yeux, qu'on considère que l'opium est le symbole obligé de la sinité. Ils mettraient en avant des éléments tout à fait différents pour caractériser l'essence de leur culture et de leur histoire. Et certainement pas l'opium, qu'ils considèrent comme un poison imposé de force par les étrangers à la Chine au XIXe siècle.
Yang Yao, la drogue venue de l'étranger.
Tout à fait, yang, yao, avec une ambiguïté du terme yao qui signifie à la fois la drogue et le remède. Ambiguïté qu'on retrouve dans nos langues occidentales, d'ailleurs.
Il est notable qu'en 1999 encore, le parfum d'Yves Saint-Laurent, opium, a été interdit en Chine.
Oui, le motif invoqué était la pollution spirituelle. C'est-à-dire qu'on a là un exemple de collision frontale entre la vision française occidentale de l'opium comme un parfum d'aventure, une drogue qui est un parfum d'aventure et d'exotisme, et la vision chinoise, donc, qui est une vision très politique de l'opium comme un instrument de l'impérialisme et donc une source d'affaiblissement, d'humiliation pour leur pays.
Alors je voudrais que vous nous aidiez, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas absolument familiers avec le pavot, avec l'opium, vous nous aidiez à savoir ce que le papaver somniferum, celui qu'on appelle maintenant le pavot, ce qu'est cette plante, parce que elle n'existe plus depuis les temps historiques à l'état sauvage.
Oui, c'est une plante qu'on n'a jamais eu l'occasion d'observer à l'état sauvage et donc qui est domestiquée depuis très longtemps par l'homme et dont les premières traces, les traces les plus anciennes, se trouvent autour de la région des lacs suisses.
En Suisse, oui, figurez-vous.
Tout à fait, ce qui est assez surprenant. Et c'est à partir de ce foyer initial qu'elle va progressivement gagner le bassin méditerranéen, puis l'Orient. Et donc ce pavot ressemble à notre banal coquelicot, c'est une plante qui est de la même famille, et c'est à partir du suc, de la capsule de ce pavot, qu'on extrait l'opium.
Les mondes arabes et persans connaissent le pavot au Moyen-Âge, et ce sont, semble-t-il, des marchands arabes à l'époque de la dynastie des Tang, c'est-à-dire entre 618 et 907, qui l'auraient introduit en Chine.
Oui, il est très probable que ce soit le chemin de la route de la soie qui a été emprunté par l'opium et qui a permis donc à cette substance, au pavot, de gagner non seulement la Chine, la Perse évidemment sur le chemin, mais également l'Inde, où l'opium va connaître une très belle carrière.
J'observe que dans les fameux romans de Robert Van Gulik, les romans policiers mettant en scène le juge-ti, l'auteur prend grand soin de montrer qu'à l'époque, on était la dynastie des Tang, donc 618-907, prend grand soin de montrer qu'on ne consomme pas encore d'opium.
Oui, ces romans, les aventures du juge-ti, dont on saurait trop recommander la lecture,
oui.
Sont placés dans la Chine des Tang, où effectivement, à cette époque, l'opium commence à être connu, mais comme un remède, et n'est certainement pas fumé, il est ingéré.
Alors c'est une substance très, très complexe, nous dit-on, l'opium, avec une vingtaine d'alcaloïdes qui composeraient cette substance.
Les alcaloïdes sont les principes actifs qui font que l'opium, le sucre du papaver somniferum, est une drogue, peut devenir une drogue. Mais en dehors de ces alcaloïdes proprement dit, vous avez toute une variété de substances, des acides, des sucres, qui permettent d'expliquer une chose fondamentale, c'est-à-dire que l'opium n'est pas un produit uniforme. Il y a des bons opiums et de mauvais opiums, comme il y a du bon vin, du mauvais vin.
C'est de la bonne drogue, nous dit-on, de la mauvaise. C'est-à-dire un des arguments aujourd'hui de ceux qui prônent la légalisation du cannabis, que de dire que du coup on échappe à tout ce qui est substance frelatée.
Voilà. Alors ça, c'est effectivement aussi une correspondance qu'on retrouve au XIXe siècle. Donc, au XIXe siècle, il y a certains hauts administrateurs chinois qui considèrent que l'opium venu d'Inde est beaucoup plus nocif que l'opium produit en Chine et que donc à ce titre-là, il serait judicieux d'encourager la production de pavots en Chine afin non seulement de se substituer aux importations coûteuses pour le pays, mais également afin de proposer aux consommateurs un produit moins dangereux.
On voit assez bien le moment où on bascule d'un usage médical à un usage autre qu'est le plaisir de la consommation. En gros, c'est le 15e siècle. On fume d'abord avec du tabac, on inhale l'opium sous forme de fumée, c'est ce qu'on appelle le madak, ma science est récente.
Alors, le madak est un peu plus tardif. Le madak est inventé sur l'île de Java, très vraisemblablement, et il consiste effectivement à mélanger de l'opium sous forme liquide à du tabac et à fumer ce mélange. Et cette invention va gagner la Chine aux alentours de 1650. Dans un deuxième temps, un siècle plus tard, une invention proprement chinoise va consister à fumer l'opium sans le mélanger avec du tabac, sous l'opium pur. Et là, c'est la façon de consommer l'opium qu'on connaît aujourd'hui, qu'on s'en représente avec cette longue pipe d'une forme si caractéristique et qu'on fume couché.
Et que nous connaissons tous, pour le moins, grâce à nos aventures de Tintin et Milou, effectivement en Chine, et grâce à la fumerie d'opium du lotus bleu. Mais voici une autre évocation de cette atmosphère qui est due à Bertrand Vanier, un grand reporter de France Inter, qui était en Thaïlande le 4 décembre 1977, une émission pour Interactualité.
Ces bruits de succion, ces grésillements, ces soupirs sont ceux que font deux fumeurs d'opium à quelques centimètres de moi. Ils sont allongés face à face sur une natte dans le coin le plus sombre d'une maison mongue. Depuis plusieurs heures, à la lueur de minuscules lampes à graisse, ils piquent et roulent l'opium autour d'une aiguille. Ils enflamment ensuite la boulette ainsi faite avant de la fumer par aspiration saccadée dans une pipe en terre. Autour de nous, assis à même le sol, des femmes et des enfants attendent que les hommes aient fini pour aller se coucher. Nous sommes dans un village mong, dans un village méo en pleine montagne, aux confins de la Thaïlande, à quelques centaines de mètres seulement de la frontière birmane et de celle du Laos. Nous sommes au cœur du fameux, du trop fameux triangle d'or, en pleine zone interdite. Interdite tout d'abord par les bandes armées chinoises, vestiges des divisions militaires du Kuomintang et des armées de Chiang Kai-shek. Quelques généraux chinois, sous couvert de lutte contre le communisme, font cultiver le pavot qui, grâce à l'opium, leur fournit l'argent nécessaire pour l'achat d'armes.
Il y a là déjà, Xavier Paulès, ces personnages ambivalents qui sont des chefs de guerre, en même temps des trafiquants, qu'on doit retrouver d'ailleurs assez semblablement dans la Colombie d'aujourd'hui.
Tout à fait. Ce qui est remarquable, c'est que les drogues, d'une manière générale, permettent de générer des revenus tellement importants qu'ils permettent à des zones entières de se soustraire à l'autorité d'un pouvoir central. Et là, il y a effectivement une correspondance tout à fait remarquable à faire avec la Colombie. Hein. Des groupes de personnes qui sont capables de se soustraire totalement à tout contrôle par une autorité politique, simplement en mettant la main sur la production de drogue et sur la distribution de drogue.
Alors évoquons le rôle qu'a eu l'opium dans l'ouverture de la Chine qui a été imposée par les puissances occidentales au XIXe siècle et qui a peut-être commencé de se dessiner au XVIIIe, mais on s'aperçoit que l'opium ne joue à ce moment-là qu'un rôle mineur, puisque lorsque l'interdiction de son introduction est prononcée en 1729, ça n'émeut pas beaucoup les trafiquants.
En 1729, on peut considérer qu'à cette époque, la drogue occupe une place extrêmement mineure sur le théâtre chinois, et donc l'édit d'interdiction va tomber assez rapidement dans l'oubli. le véritable moment où ça devient un enjeu crucial des relations de la Chine avec le reste du monde, et en particulier avec l'Angleterre, c'est le début du 19e siècle, quand les importations deviennent suffisamment importantes pour qu'elles déséquilibrent la balance commerciale de la Chine avec l'Angleterre, avec le reste du monde, en générant des fortes sorties d'argent métal. Et donc, les autorités vont s'alarmer, vont... à la fin des années 1830, mettre en place une politique de stricte prohibition. Et cette politique de stricte prohibition va déboucher sur la confiscation de stocks très importants d'opium clandestin, de contrebande, qui appartenaient à des marchands anglais. Et cette confiscation, puis leur destruction, va être le casus belli qui va déboucher sur la première guerre de l'opium.
C'est du pavot qui vient de l'Inde ou des Indes?
Alors, c'est de l'opium, c'est-à-dire que, effectivement, les champs de pavots sont situés en Inde, dans la vallée du Gange, principalement, et l'Inde transforme le sucre en opium, conditionne cet opium dans des caisses, et ces caisses partent à bord de vaisseaux britanniques pour aller alimenter les circuits de contrebande dans la région de Canton et dans le sud de la Chine. Et ce trafic-là, auquel les autorités chinoises décident de mettre fin dans les années 1830.
Parenthèse, comment passe-t-on de la plante, le pavot, à l'opium séché, desséché, que l'on transporte de la sorte, soit par des circuits autorisés, soit par contrebande?
On incise la capsule du pavot juste après la chute des pétales. On obtient ainsi effectivement une substance qui est liquide. Et c'est après l'avoir fait sécher, après différentes opérations de pétrissage, on leur donne la forme d'un boulet de canon pour ce qui concerne l'opium indien. Et ces boulets de canon vont être soigneusement emballés dans de grandes caisses de bois.
C'est métaphorique que c'est l'aspect d'un boulet de canon, étant donné le rôle quasi militaire que l'opium va avoir dans l'offensive des Occidentaux vers la Chine.
Effectivement. Et d'ailleurs, les Chinois vont gloser sur ce parallèle, considérant effectivement l'opium comme une arme dirigée contre la Chine par les étrangers.
C'est pourquoi on voit surgir un personnage qui est resté très, très célèbre, très emblématique en Chine et très admiré. C'est ce personnage qui s'appelle Lin Zexu.
Lin Zexu.
Merci. Qui écrit en 1839 à la reine Victoria, au moment du début de la guerre de l'opium, pour annoncer que la Chine va se dresser contre toute importation et va détruire tout opium qui peut arriver. Et sa lettre, vous allez voir, est intéressante parce qu'elle mêle des considérations politiques, économiques et morales.
Lettre de Lin Zexu à la reine Victoria. 1839. La voie du ciel est l'équité envers tous. Elle ne supporte pas que nous fassions du mal aux autres pour notre bénéfice. Sur ce point, tous les hommes sont semblables dans le monde entier. Ils chérissent la vie et haïssent ce qui met la vie en danger. Votre pays se trouve à 20 000 lieues, mais malgré cela, la voie du ciel s'applique pour vous comme pour nous, et vos instincts ne sont pas différents des nôtres. Car nulle part, les hommes ne sont assez aveugles pour ne pas distinguer entre ce qui apporte la vie et ce qui apporte la mort, entre ce qui est avantageux et ce qui est préjudiciable. Notre cour céleste traite tous ceux qui vivent entre les quatre mers comme les membres d'une grande famille. La bonté de notre grand empereur est comme le ciel qui couvre toutes choses. Il n'est pas une région si sauvage ou si éloignée qu'il ne chérisse et ne garde. Toujours, depuis que le port de Canton a été ouvert, le commerce a prospéré. La rhubarbe, le thé, la soie sont tous des produits de valeur de notre pays sans lesquels les étrangers ne pourraient pas vivre. Mais il y a une catégorie d'étrangers malfaisants qui font de l'opium et la porte pour le vendre, incitant les sots à se détruire eux-mêmes simplement en vue d'en retirer du profit. Auparavant, le nombre des fumeurs d'opium était petit, mais maintenant ce vice s'est répandu partout et le poison a pénétré de plus en plus profondément. Mais notre grand empire mandchou, unifié, se considère responsable des habitudes et des mœurs de ses sujets et ne peut rester satisfait en les voyant victimes d'un poison mortel. Pour cette raison, nous avons décidé d'infliger des peines sévères aux marchands d'opium et aux fumeurs d'opium afin de mettre un terme définitif à la propagation de ce vice. Il semble que cette marchandise empoisonnée, manufacturée par certaines diaboliques personnes dans des endroits soumis à votre loi. On me dit que dans votre pays, il est interdit sous peine sévère de fumer l'opium. Cela signifie que vous n'ignorez pas à quel point cette action est nocive. Mais plutôt que d'interdire la consommation de l'opium, il vaudrait mieux en interdire la vente, ou mieux encore en interdire la production, ce qui est le seul moyen de purifier la contamination à sa source. Aussi longtemps que vous ne prendrez pas cette mesure vous-même et continuerez à faire de l'opium et inciter le peuple de Chine à l'acheter, vous vous montrerez soucieuse de la vie de vos propres sujets et insouciante pour la vie des autres hommes, indifférente au mal que vous faites aux autres dans votre avidité pour le gain. Une telle conduite répugne aux sentiments humains et est en désaccord avec la voix du ciel. Plutôt que de gaspiller vos efforts dans une entreprise désespérée, ne vaudrait-il pas mieux projeter quelque autre forme de commerce? Tout l'opium qui est découvert en Chine est jeté dans l'huile bouillante et détruit. Tout bateau qui, à l'avenir, viendra avec de l'opium à son bord sera mis à feu et tous les autres biens qu'il transportera seront inévitablement brûlés en même temps. Alors, non seulement vous ne parviendrez à tirer quelques profits de nous, mais vous vous ruinerez dans l'affaire. Ayant voulu nuire à autrui, vous serez la première à en souffrir. Notre cour céleste n'aurait pas gagné l'allégeance d'innombrables pays si elle n'exerçait un pouvoir surhumain. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti à temps.
Cette archive, cette lecture provient d'une émission de Claude Hudelot dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture le 22 juin 1977. Alors, Xavier Paulès, belle leçon de morale à un niveau élevé. Quoi, vous, les Britanniques, vous vous refusez à consommer de l'opium et vous voulez que nous en soyons empoisonnés pour des raisons mercantiles?
Pour l'anecdote, il est amusant de voir que Lin Zexu n'est pas conscient du fait que l'opium est massivement consommé à cette époque en Grande-Bretagne, mais simplement il est consommé sous forme de laudanum et sous forme de solution, et non pas fumé, effectivement. Enfin, l'information dont disposait Lin Zexu sur la vie en Grande-Bretagne était à peu près inexistante, donc on ne peut pas lui en faire reproche.
Mais je vous ferai entendre tout à l'heure un extrait naturellement du livre fameux de Thomas Kinsey, Confession d'un mangeur d'opium anglais qui remonte à 1822. Mais notre Chinois ne le savait pas.
Alors, ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est les deux points de vue qui sont développés, le point de vue moral et le point de vue économique et commercial. Et là, on a effectivement une espèce de constante dans l'histoire des drogues, c'est-à-dire que c'est des substances qu'on envisage toujours selon ces deux faces qui sont complètement indissociables. Et là, on a un exemple typique, mais il est assez peu représentatif finalement de la littérature chinoise de l'époque, dans la mesure où les Chinois de l'époque, le débat portait davantage sur les dégâts économiques produits par la drogue. Les aspects sociaux étaient un petit peu à l'arrière-plan, alors qu'ici, dans cette lettre, ils apparaissent vraiment comme tout à fait fondamentaux. Et on retrouve à toutes les époques, et y compris à notre époque, une préoccupation très grande, non seulement pour la morale, mais également pour l'aspect économique entre les différents pays. En particulier, quand il y a des trafics de drogue entre différents pays, il est évident qu'il y a des pays qui en profitent et des flux de capitaux tout à fait importants qui circulent. Et c'est là, évidemment, un sujet de préoccupation particulièrement important pour ces questions.
Avec un élément de contradiction. D'un côté, la balance des paiements qui en souffre, et de l'autre, d'éventuelles recettes fiscales. Je suis frappé du fait que dans le vote des habitants du Colorado aux États-Unis, un élément a beaucoup compté. C'était le fait qu'on annonçait que les premiers 40 millions de dollars qu'on pourrait tirer de la vente légale du cannabis dans cet État serviraient à l'enseignement public. Et que par conséquent, l'argent irait à la formation des jeunes habitants de cet État américain. Toujours ce mélange d'aspect économique, fiscal, d'aspect financier et de préoccupation morale.
C'est aussi, si je ne m'abuse, en France, un des éléments fondamentaux du débat de la légalisation du cannabis. C'est-à-dire que l'un des arguments en faveur de la légalisation, c'est le fait qu'au lieu de profiter à des réseaux criminels, de trafiquants, les ressources provenant d'une légalisation du cannabis pourraient être utilisées au profit de l'État, au profit de la communauté. Pour en revenir à la Chine, l'État Qing, dans la deuxième moitié du 19e siècle, va se convertir à une légalisation de la drogue et va utiliser les recettes qui vont être dégagées par cette légalisation pour financer un effort de modernisation de plus en plus important.
Et dans le même temps, on voit l'essor du lobby anti-opium au Royaume-Uni et le rôle des missionnaires, particulièrement soucieux de s'attaquer à l'opium en Chine, parce que, outre les considérations humanitaires, la drogue leur paraît gêner leur entreprise d'évangélisation, puisqu'en Chine, on a tendance à considérer qu'opium et christianisme sont deux aspects aussi indissociable et inopportun que de l'intrusion occidentale dans le pays.
Tout à fait. La croisade anti-opium ne s'explique pas uniquement par des considérations purement humanistes de la part des missionnaires, en particulier des missionnaires anglo-saxons. Ça obsède beaucoup moins les missionnaires catholiques français et d'Europe du Sud. Mais la véritable raison, c'est qu'effectivement, ils y voient un obstacle crucial dans leur entreprise d'évangélisation des masses chinoises.
Il se crée en 1874 une société pour la suppression du commerce de l'opium qui est fondée par un Quaker et qui joue un rôle important. Et cela est d'autant plus nécessaire que, il faut maintenant le rappeler, c'est par la force que les Occidentaux ont imposé l'entrée de l'opium en dépit de notre protestation de ce grand fonctionnaire que nous avons cité tout à l'heure. Les guerres de l'opium, c'est ça que ça veut dire.
Les guerres de l'opium ont été non pas un moyen de forcer l'entrée de la drogue véritablement, mais de forcer d'une manière plus générale la Chine à s'ouvrir d'un point de vue commercial et diplomatique.
Mais l'opium était symbolique.
Oui, l'opium représentait la marchandise la plus importante pour les Anglais à l'époque. Donc il avait, de ce point de vue-là, une importance fondamentale, cruciale. Ce serait exagéré de dire que les Anglais ont fait la guerre pour imposer l'opium aux Chinois. Les motivations sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus complexes.
Et ces guerres ont abouti à deux traités inégaux, les fameux traités de Nankin en 1842 et en 1858.
Il est remarquable que le traité de Nankin ne mentionne pas le mot opium.
Mais c'est sous-jacent.
Effectivement, c'est un enjeu qui est central dans les préoccupations des négociateurs, mais néanmoins, il n'y a pas de légalisation de l'opium en 1842. Cette légalisation intervient au terme de la seconde guerre de l'opium en 1860, où là, on va effectivement considérer que cette drogue, moyennant le paiement de certaines taxes au moment de son entrée, cette drogue peut être légalement importée en Chine.
1860, ce n'est pas un hasard, probablement, c'est l'année de l'épouvantable sac du Palais d'été.
Le dernier épisode de la deuxième guerre de l'opium, dont on considère généralement qu'elle s'étend entre 1856 et 1860, effectivement a donné lieu à cet épisode pénible pour la mémoire des Chinois et pas très glorieuse pour celle des Franco-Britanniques, qui a été effectivement le pillage et la destruction du palais d'été à l'ouest de Pékin en 1860.
Le trafic ouvert ou clandestin de l'opium va désormais être une composante, avec des sinusoïdes d'ailleurs, jusqu'à l'accès des communistes au pouvoir. Et cette chanson de 1931, Opium fumé de rêve, par Marcel, dont les auteurs sont Charlis et Dabzak, rend bien compte de ce rôle du commerce. Vous allez retrouver un navire qui porte de l'opium dans ses cales. On est en Indochine, mais on est tout près de la Chine.
Le port de Saïgon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, on ne connaît pas son nom. Mais le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, des Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois le doux visage, les yeux de mon aimé. Par toi, j'ai son image. Du demi-jour, les lanternes qui se voilent sont de petites étoiles qui pâlissent tour à tour. Dans le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente les plus beaux rêves d'amour. Opium, fumée cruelle, poison menteur,
toutes les rimes sont attendues, chimères, légères, etc. N'est-ce pas Xavier Paulez dans cette chanson, mais qui reflète bien, peut-être plus que simplement, le regard mythologique de l'Occident sur l'Orient. Il y a aussi des échos de ce qui se passe vraiment, non?
C'est intéressant de voir une chanson qui concerne l'Indochine, hein, puisque ça permet de voir que le mode de consommation chinois a été exporté vers des pays qui n'étaient pas la Chine proprement dite. Et là, on a donc la chanson de Marcels sur une jonque chinoise en Indochine. Et ça explique assez bien aussi pourquoi l'opium est resté pour nous quelque chose d'indissolublement lié à l'Orient. C'est qu'il y a eu effectivement en Indochine une place importante parmi les annamites et parmi les vietnamiens de la consommation d'opium.
On a dit parfois parmi les militaires français, on avait affirmé que le général Salan avait apprécié la consommation d'opium. Je ne sais pas si c'est avéré.
Il y a un certain nombre de coloniaux, comme on les appelait à l'époque, surtout à la fin du 19e siècle, qui ont tâté du bambou. Ça s'expliquait en particulier par le fait que la société coloniale était très peu développée, les loisirs étaient quasiment inexistants. Et donc, ils se sont laissés happer, pour un certain nombre d'entre eux, par la drogue. Et par la suite, l'administration va veiller de beaucoup plus près à interdire la consommation d'opium. Les loisirs vont se développer et surtout, il va y avoir une image très négative de l'opium qui va prendre le dessus.
Alors, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'en Chine aussi, des pouvoirs successifs ont fait des plans pluriannuels pour limiter la consommation de l'opium. C'est le cas, d'ailleurs, dès les dernières années de la dynastie Mandchou, l'impératrice Cui, qui oblige à restreindre beaucoup la consommation déjà. Les fumeurs sont en particulier obligés de consommer chez eux. Cela, ça annonce quelque peu ce qui se passe actuellement en France ou en Occident pour le tabac.
Oui, il y a l'idée qu'il faut lutter contre le prosélytisme que représentent les lieux publics de consommation. Et on a ce genre de problématique aussi dans certains États des États-Unis où il est interdit de consommer de l'alcool de manière publique. Donc on consomme de l'alcool chez soi. Et c'est donc une idée sous-jacente au plan de 1906 qui était un plan dont on a probablement un peu trop oublié les grands succès qu'il a remportés.
À cause de la chute de la dynastie.
Tout à fait, à cause de la chute de la dynastie qui a largement compromis les résultats qu'il avait enregistrés, mais également aussi en raison d'une image trop généralement négative de la fin de la dynastie qu'on considère comme à bout de souffle, incapable de se réformer, alors qu'elle a au contraire mené des réformes extrêmement profondes. Et le plan de 1906, le plan de 10 ans, en est un exemple tout à fait remarquable du point de vue à la fois du brio avec lequel il est mis en œuvre et également au niveau des résultats qu'il enregistre très rapidement.
Mais à partir de la chute et de l'arrivée de la République avec Sun Yat-sen, puis Yuan Shikai, il y a un reflux de la lutte contre l'opium, mais qui réapparaît ensuite. Il y a des sortes de va-et-vient, de sinusoïdes.
Pour lutter efficacement contre l'opium, il est indispensable d'avoir une emprise assez forte sur l'économie et la société du pays. Et à partir du moment où le pouvoir central en Chine devient évanescent, disons, au milieu des années 1910, les efforts de lutte contre l'opium vont devenir inopérants. Et c'est seulement quand le Kuomintang aura repris une certaine emprise, quand il existera un pouvoir central suffisamment consistant au milieu des années 30, qu'on va relancer, avec le plan de cette fois-ci, un plan qui s'appelle le plan de 6 ans, on va relancer la lutte contre l'opium et des résultats plus décevants vont être enregistrés.
Il faut évoquer évidemment le rôle du Japon qui envahit de larges fraction du territoire chinois et qui assurait sur son territoire une prohibition absolue.
Intéressant effectivement de voir que le Japon a largement utilisé l'opium pour financer ses ambitions en Chine du Nord. Donc l'opium était utilisé dans le Manchukuo en particulier pour dégager des recettes fiscales et également dans les zones qu'il va occuper pendant la Deuxième Guerre mondiale en Chine. Mais de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que le Japon a fait œuvre très originale puisque la plupart des entités politiques qui ont existé en Chine depuis la fin du 19e siècle ont utilisé l'opium pour se financer.
Il faut en arriver à l'accession au pouvoir des communistes à la fin des années 1940 pour constater l'efficacité d'une politique qui est à cet égard radicale. Écoutez cette ordre de suppression qui remonte au 24 février 1950 par le gouvernement communiste, début du règne de Mao Tse-tung, quelques mois après la proclamation de la République populaire. Voici plus d'un siècle que l'opium a été introduit de force en Chine par les impérialistes. En raison du gouvernement réactionnaire et du mode de vie décadent de la bureaucratie féodale, des seigneurs de la guerre, non seulement l'opium n'a pas été supprimé, nous avons été obligés d'en cultiver. Les Japonais, lors de leur agression, ont systématiquement cherché à appliquer un plan consistant à empoisonner la Chine, ce qui a causé des pertes humaines et matérielles de grande ampleur. Fin de citation. Tout est résumé là.
Oui, j'aime beaucoup ce texte parce qu'effectivement, il date de 65 ans, mais il représente à peu près toujours ce qu'on enseigne aux Chinois aujourd'hui, c'est-à-dire l'opium, enjeu essentiellement politique, instrument de l'impérialisme, instrument du militarisme japonais, également, pour ce qui concerne la période républicaine, instrument aux mains des seigneurs de la guerre et du Kuomintang.
Alors, je voudrais maintenant, Xavier Paulès, que nous en venions à un regard plus spécifique sur l'opium tel qu'il a été en Chine un élément de la civilisation, comment il a contribué à une certaine manière d'être, réalité d'ailleurs et mythologie une fois de plus. Vous évoquez tout à l'heure les consommations de l'opium en Occident, notamment en Angleterre, quelles qu'aient été les leçons de morale données par Londres. Commençons ce moment de notre conversation, si vous voulez bien, sur l'histoire de l'opium en comparaison avec le cannabis. Commençons ce moment avec un extrait du texte de Kinsey sur l'ivresse et sur l'opium. C'est un extrait d'une émission qui s'appelait « L'usage de la parole » le 7 janvier 1963. C'était une émission de Michel Foucault.
Feu, le duc de Norfolk, avait coutume de dire « Lundi prochain, si les circonstances le permettent, j'ai l'intention de m'enivrer. » De la même manière, j'avais l'habitude de fixer quand, combien de fois et selon quel cérémonial de fête je ferais une débauche d'opium. Cela avait lieu rarement plus d'une fois toutes les 3 semaines et le moment choisi était soit un mardi, soit un samedi soir. C'est que mardi et samedi furent pendant des années jours de représentation au Théâtre du Roi, à l'Opéra. À cette époque, la Grassini chantait. Et sa voix, la plus belle des contraltos, me ravissait au-delà de tout ce que j'ai entendu. L'opium, en exaltant fortement et dans tout son ensemble l'activité intellectuelle, accroît naturellement celle qui nous permet de transformer en délicats plaisirs intellectuels les matériaux bruts d'une sensation sonore. À un cœur, à tout autre morceau chanté avec harmonie, je voyais se déplacer devant moi comme une tapisserie sur laquelle était représentée ma vie passée tout entière. Cette perspective n'était pas un acte de mémoire. Je n'éprouvais plus la douloureuse sensation des détails, car les accidents de mon existence étaient éloignés et enveloppés dans une sorte d'abstraction obscure, tandis que l'essentiel était exalté, exprimé sous un idéal élevé.
Cet extrait donc des confessions d'un mangeur d'opium de Kinsey était lu par Abel Jacquin. Alors Xavier Paulès, vous pensez que ce texte aurait pu être tel quel traduit en chinois au 19e siècle, au début du 20e ?
Texte admirable dans la mesure où il montre bien deux choses. Il montre bien d'abord à quel point la consommation d'opium est une source de plaisir. Et il détaille de manière tout à fait pertinente les plaisirs que ressent le consommateur d'opium. Mais également, le texte nous permet de nous intéresser à la façon dont l'opium s'insère dans le temps du quotidien, dans le tempo de la vie de tous les jours. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental qui explique aussi, en plus des propriétés de la substance proprement dite, il y a aussi le fait que l'opium et la consommation de certaines drogues permet de s'abstraire du tempo de la vie quotidienne normale, des soucis de la vie quotidienne normale. On rentre dans une temporalité qui est propre à la drogue. Et c'est, à mon avis, du point de vue parfaitement significatif du point de vue de l'opium, dans la mesure où il y a une rupture qui s'opère par rapport à la vie quotidienne, d'une part en raison de la position couchée qu'on est obligé d'adopter, donc au milieu de la journée, ça fait un temps différent, et aussi en raison du fait que la préparation des pipes est un espèce de rituel dans lequel le fumeur va rentrer dans un espèce d'espace-temps différent. Et c'est en soi-même source de grand plaisir.
Avec la question sous-jacente qui est celle de savoir si on peut modérer sa consommation ou si on est entraîné sur une pente glissante. À cet égard, beaucoup de Chinois disaient qu'on pouvait très bien éviter cela, on n'était pas forcément drogué, enfin je veux dire au sens de addicted, comme disent les Anglais.
Tout à fait, la dépendance est un enjeu fondamental dans la définition du bon ou du mauvais fumeur. Et là, on retrouve des parallèles absolument fascinants quand on lit un petit peu ce que les sociologues peuvent trouver dans les communautés de fumeurs de cannabis aujourd'hui. Il y a François Dubet, par exemple, un sociologue qui a publié un article à ce sujet il y a une 20aine d'années, qui retrouvait la même dichotomie parmi ces milieux de fumeurs de cannabis entre le bon consommateur et le mauvais consommateur. Le bon consommateur, c'est celui qui reste dans les réseaux de sociabilité de fumeurs, celui qui va consommer dans un certain mode de consommation, qui va rester dans un certain mode de consommation régulé, collectif. Et le mauvais fumeur, c'est celui qui s'abstrait du groupe de fumeurs et qui va commencer à ne plus maîtriser sa consommation et à tomber dans l'addiction. Et là, on retrouve quelque chose qui existait en Chine, exactement identique dans les milieux de consommateurs d'opium. C'est-à-dire que la frontière entre le bon et le mauvais consommateur, c'est d'une part usage collectif et en deçà de l'addiction pour le bon consommateur, et pour le mauvais consommateur, usage donc, qui mène à l'addiction et usage solitaire.
Plaisir individuel, plaisir collectif, il y a aussi la grande question qu'on retrouve de la valeur thérapeutique de la drogue. Vous avez peut-être remarqué tout récemment ce jugement en novembre dernier, en novembre 2013, du tribunal d'Avignon. C'est une première apparemment qui a relaxé un homme qui consommait du cannabis pour soulager une maladie rare. Il était relaxé, le parquet a fait appel.
C'est l'occasion de rappeler que l'opium, comme d'autres drogues, en fait, était au début utilisé dans un usage strictement médical. Et qu'il c'est ensuite qu'on a découvert, les consommateurs ont découvert qu'on pouvait en tirer un usage de plaisir.
La morphine, après tout, est un sous-produit de l'opium.
C'est un des principes actifs les plus importants de l'opium. On n'a pas suppression, on n'a pas disparition de l'usage thérapeutique une fois qu'on a découvert le motif de plaisir. On a superposition, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont fumer l'opium toujours pour se soulager d'un certain nombre de maux. Il y a deux choses. D'une part, il y a effectivement de véritables propriétés thérapeutiques de l'opium, c'est-à-dire que l'opium soigne par exemple les diarrhées, soigne la toux.
Les rhumatismes aussi ?
Alors, les rhumatismes, c'est un peu plus compliqué. On débouche dans le deuxième paradigme, qui est le paradigme de l'atténuation des douleurs. Et donc, quand on a du rhumatisme, quand on fume de l'opium, on ne va pas supprimer la raison pour laquelle on a des rhumatismes, on va supprimer les manifestations des rhumatismes les plus désagréables, c'est-à-dire la douleur.
Cela paraît plus sérieux, franchement, que la toux. Parce que s'il suffit de tousser un peu pour légitimer une consommation d'opium, vers où va-t-on ?
Effectivement, vous avez raison. Mais il n'empêche que si vous examinez la composition des sirops pour la toux que vous consommez aujourd'hui, vous allez trouver un certain nombre de principes actifs qui proviennent du pavot.
D'ailleurs, certains ont voulu du même coup l'interdire. Enfin, c'est bon à savoir. Toussez et vous pourrez acheter chez votre pharmacien un produit nourri d'opium, c'est ça ?
Ça évoque quelque
chose.
Ne
répéterai pas trop.
Ça évoque quelque chose de contemporain aussi au Japon. Au Japon, on s'aperçoit que là, aujourd'hui, des personnes refusent de consommer des remèdes, mais tout à fait légalement vendus et tout à fait reconnus par le monde médical, simplement parce qu'ils possèdent des principes actifs venus de l'opium. C'est-à-dire qu'il y a une telle réticence pour l'opium dans la population japonaise, enracinée depuis si longtemps, qu'on peut refuser de se soigner aujourd'hui au motif qu'on se soigne avec quelque chose qui provient de l'opium, ce qui est donc, tout à fait fascinant.
Donc le japonais tousse plus que l'occidental, c'est ça que vous nous dites.
C'est peut-être le résultat.
C'est une nouvelle très importante qui sera notée dans les annales de cette émission. La consommation de l'opium est un élément, comme vous le dites, des comportements sociaux. Il y a un peu deux légendes. La légende de la fumerie misérable avec les pauvres coulis, et puis de l'autre, le luxe qu'on retrouve, je le cite toujours avec plaisir, dans le Lotus Bleu. Du côté des très pauvres, on voit qu'il y a une sorte d'archétype du consommateur d'opium qui fait de celui-ci une sorte de repoussoir absolu. Il y a le dessin, à partir des années 1900, du coulis en haillons qui a l'air hagard et d'une maigreur extrême. Je cite un des observateurs de ce temps-là. À force de fumer, il arrive à n'avoir que la peau sur les os, les bras maigres et un grand crâne. Sa fortune, il l'a fait passer tout entière par le tuyau de sa pipe. L'idée que, naturellement, il prive sa famille de tous ses revenus, que c'est une sorte de déchéance absolue. Un peu comme le jeu, d'ailleurs, à certains égards. L'idée lui vient vendre sa propre maison. D'abord, il vend les traverses, puis il vend les poutres, et l'argent obtenu lui permet de sucer à nouveau la drogue. Maintenant, il a déjà fumé absolument tout. Il va terminer sa vie et paraître aux enfers. Fin de citation.
Processus de déchéance qui est un des thèmes courants dans la littérature de propagande, à la fois des missionnaires et qui est également reprise dans les affiches, en particulier en Chine dans les années 30 et dans les années 40. On voit ces hommes prospères, en pleine santé, dépérir progressivement du fait de la consommation d'opium.
Cette dépendance se retrouve aujourd'hui dans l'angoisse qu'un certain nombre de gens éprouvent en considérant l'utilisation des drogues contemporaines et notamment du cannabis.
Il y a cette idée toujours que les consommateurs ne peuvent pas se restreindre, qu'ils sont obligés d'augmenter les doses et qu'en augmentant les doses, ils vont rentrer dans une spirale négative, une spirale infernale qui va les mener à la déchéance complète.
L'histoire de l'opium prouve le contraire.
L'histoire de l'opium prouve qu'on peut maîtriser sa consommation pour rester en deçà de la dépendance, mais ça évidemment, ça n'implique pas qu'il n'y a pas certaines personnes qui sont incapables d'arriver à ce résultat et qui vont sombrer dans la déchéance physique parce qu'ils sont incapables de se restreindre.
À propos de celles de ces fumeries qui sont un peu misérables, je vous propose une dernière archive. Ce sont les souvenirs d'un radio-reporter en Asie. Une archive de France Inter, le 23 janvier 1966, Samy Simon, qui est toujours extrêmement coloré dans ses propos.
La drogue, bien sûr, c'était l'opium. Il s'en faisait à l'époque une consommation incroyable. À Cholen, la ville chinoise, les fumeries ne se comptaient plus. C'était souvent de simples pièces aux murs nus, garnies de planches, devant lesquelles j'ai vu des dizaines de pauvres bougres faire la queue et attendre patiemment leur tour avant de pouvoir, à prix d'or, s'étendre un instant et tirer sur le bambou leur petite ration quotidienne d'oubli et de rêve. Et beaucoup parmi eux y laissaient chaque soir les quelques piastres qu'ils avaient durement, péniblement gagnés pendant le jour. Au point que les autorités officielles finirent par s'émouvoir, et quelques jours après mon arrivée, un décret fut pris qui interdisait les fumeries d'opium sur tout le territoire. Seule en demeurait autorisée la vente à ceux qu'il eût été dangereux de priver brusquement et totalement de leur drogue, mais seulement en ce cas sous contrôle médical et dans des cliniques de désintoxication. C'est alors que je pus prendre toute la mesure de l'astuce de l'humour et du génie chinois. Que pensez-vous qu'il arriva en effet? La panique chez les trafiquants, la faillite des fumeries, des suicides à la chaîne, vous n'y êtes pas. Simplement, les clients, par milliers, s'enfuirent chez le médecin signa des ordonnances, empocha ses honoraires, et le client, nanti d'un certificat de malade en bonne et due forme, et parfaitement en règle avec les autorités, n'eut plus qu'à retourner à sa fumerie habituelle. La seule différence fut qu'il paya chaque pipe un peu plus cher, et qu'à la place de l'inscription qui s'y trouvait la veille, on pouvait y lire en magnifique caractère chinois ou juif sur fond blanc ces trois mots « clinique de désintoxication ». Et le tour était joué. Et c'est ainsi que, me promenant dans Cholène, je n'eus qu'à entrer dans la première clinique venue pour saisir sur le vif ce moment de délice éphémère où la précieuse petite boule brunâtre grésille sous la flamme et où, aspiré par le fumeur à l'autre extrémité du long tuyau de bambou, il y a pour un instant, un court instant, un homme heureux.
Cet excellent reporter qui était Samy Simon se laisse parfois un peu emporter par son imagination. Cette affaire des cliniques de désintoxication s'est avérée, Xavier Paulès?
Il y a des exemples, effectivement, de campagnes contre l'opium qui ménagent des espèces d'exceptions pour les personnes qui fument pour des raisons thérapeutiques, d'une part, et d'autre part, pour les personnes qui sont jugées trop âgées pour se réformer, et également, pour ces personnes trop âgées, on juge que ce serait trop inhumain de les obliger à se sevrer, et donc on autorise certaines catégories de personnes à continuer à fumer sous un certain nombre de conditions et avec un certain nombre d'obligations comme la détention d'un permis. Alors on voit dans l'exemple de Samy Simon, effectivement, que ça peut déboucher sur des abus, voire une complète mascarade.
Même si le nombre des fumeurs a beaucoup diminué en Chine tout au long du XXe siècle, en réalité, notamment sous l'effet de l'influence des législations, il y a néanmoins toute une série de fumeries qui sont accueillantes pour les élites de la société. Je note d'ailleurs que nous n'avons qu'un mot en français pour désigner ces fumeries, qu'il y en a 15 en chinois, donc un grand sens de la diversité.
Oui, on a une terminologie qui est très pauvre, hein, puisque le phénomène des fumeries en France s'est résumé à quelques dizaines de fumeries, peut-être à Paris, à la Belle Époque, et également dans les ports coloniaux, les ports où il y avait des marins qui revenaient des colonies.
Donc un seul mot suffisait.
Un seul mot suffisait largement, alors qu'en Chine, on va développer, disons, une terminologie relativement précise pour désigner les fumeries de bas étage, les fumeries de quartier et les fumeries de luxe.
Est-ce que vous pouvez évoquer la sociabilité de ces fumeries de luxe? Un peu d'ailleurs comme aux Pays-Bas aujourd'hui, où le cannabis est autorisé, plutôt, il est toléré plutôt que légalisé depuis longtemps, dans des établissements spécifiques.
Tout à fait. La consommation de drogue est une occasion de sociabilité. On n'est pas très loin du repas d'affaires dans les fumeries de luxe de Canton ou de Hong Kong. Plus tardivement, à Hong Kong, jusque dans les années 50-60, on trouve des traces de fumeries de luxe dans lesquelles les marchands viennent traiter leurs affaires autour d'un matériel très luxueux, servi par des hôtesses expertes dans la fabrication des pipes et également, bien sûr, consommateurs d'un opium de très grande qualité. Quand on fait un repas d'affaires aujourd'hui autour d'une table, on se réunit pour boire du bon vin, pour manger un repas relativement raffiné. On retrouve tout à fait cette dimension. Mais il y a également une dimension de sociabilité beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus banale, pour laquelle les hommes, les femmes fumaient très peu quand même, globalement. Les hommes se retrouvent après une journée de travail pour fumer quelques pipes autour de leur lieu de travail ou alors à côté de chez eux.
Vous évoquez ces jeunes femmes qui venaient servir les fumeurs. Il y a un lien clair à l'époque entre prostitution de luxe et consommation de l'opium. Je ne sais pas si on retrouve la même chose pour le cannabis aujourd'hui.
Je pense qu'on peut faire... Peut-être que le lien avec le cannabis est un petit peu moins évident, quoique dans les milieux de la fête, les milieux du show business, etc., les deux pratiques soient, à mon avis, assez liées. Mais de même, pour l'alcool et la prostitution, aujourd'hui, il y a un lien très évident dans les lieux de prostitution. Pour ce qui est de l'opium, il existe non seulement des femmes pour servir dans les fumeries, des femmes généralement du jeune et très belle, mais il existe également dans les maisons de prostitution. On incite fortement les clients à consommer de l'opium, tout simplement parce que ça faisait des rentrées supplémentaires pour la maison. Évidemment, on prélevait un pourcentage important du prix de l'opium conservé aux clients. Et de ce point de vue-là, il faut souligner aussi que l'opium est considéré non pas comme un aphrodisiaque, c'est-à-dire comme un excitant, mais au contraire, l'opium est considéré comme, du fait que c'est un sédatif, comme quelque chose qui va permettre d'améliorer la qualité des rapports sexuels avec une prostituée ou non, en permettant des rapports sexuels plus longs, dans la mesure où l'opium va aider l'homme à retarder l'éjaculation. Donc il y a des liens très, très importants entre l'opium et les pratiques sexuelles.
Bien, je suis sûr que nous sommes très écoutés dans ce moment de notre conversation. On dit aussi que l'opium est chargé parfois d'activer la digestion quand les repas sont un peu copieux.
Effectivement, c'est une autre des propriétés que l'on prête à l'opium, c'est-à-dire qu'après un repas assez copieux, dans un certain nombre de restaurants de luxe en Chine au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, on se devait de proposer aux consommateurs une salle à part dans laquelle ils pourraient s'allonger pour consommer l'opium.
On est tenté de faire un rapprochement avec les bordels des villes moyennes de la France du XIXe siècle, qui étaient autant un lieu de sociabilité que de débauche. Vous voyez ce qu'en écrit par exemple Maupassant.
Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais quand vous évoquiez ça. On voit bien effectivement les élites locales se réunir dans un certain nombre de nouvelles de Maupassant dans les bordels afin de négocier des affaires ou simplement de se détendre après une journée de travail. De ce point de vue-là, le parallèle est tout à fait faisable.
On est assez loin, en somme, des fascinations dont témoignent un certain nombre de romanciers à la fin du 19e ou au 20e siècle. Je pense à Claude Farrère, un des premiers prix Goncourt, avec un roman assez médiocre d'ailleurs. Oui, vous faites une grimace qui montre que vous l'avez lu. Ou bien Pierre Loti.
Oui, j'ai lu Farrère, obligé professionnellement, parce qu'effectivement, c'est un roman assez médiocre.
Pierre Loti, c'est mieux.
Oui, on est quand même, à mon avis, dans une littérature à un niveau un peu supérieur. Ce qui est indissociable de ces romanciers, c'est quand même l'idée que l'opium ouvre à une compréhension de l'Orient, ce qui est quand même, c'est un point de vue un peu exotisant, mais ce qu'on retrouve, un thème récurrent qu'on retrouve chez eux, en particulier chez Pierre Loti, il y a quand même quelques scènes assez belles dans lesquelles Pierre Loti se décrit comme étant installé dans le palais impérial, en train de fumer l'opium au milieu d'un mobilier extraordinaire, dans un cadre absolument unique, et il explique en quelque sorte que l'opium l'ouvre à la compréhension de l'art et de l'Orient.
Merci Xavier Paulès de nous avoir permis de mieux comprendre la portée de l'exemple de l'opium, même si sa consommation a beaucoup décru, pour éclairer un certain nombre de débats aujourd'hui sur la consommation des drogues et sur la conséquence de leur commerce ouvert ou souterrain, le plus souvent souterrain, sur les mentalités et les moralités contemporaines.
Je pense qu'au moins, le regard porté sur la Chine et l'opium nous libère d'une idée préconçue qui est qu'on puisse rêver un jour vivre sans les drogues, libérer des drogues. Je pense que nous sommes condamnés à vivre avec les drogues.
Vous le regrettez ?
Pas du tout. Je pense que c'est une ouverture intéressante sur les au-delà. Et qu'on... Le seul moyen de supprimer les drogues, c'est de vivre dans la Chine du début des années 1950. Chine dans laquelle tout geste de chacun des citoyens est parfaitement contrôlé par le gouvernement, ce qui a permis de supprimer l'opium et d'autres pratiques. Et à mon avis, ce n'est pas souhaitable.
Est-ce que je peux comprendre, sans faire intrusion dans votre fort intérieur, que vous n'êtes pas hostile à la décision récente du Colorado à propos du cannabis ?
Pas du tout, pas plus que je ne suis hostile. Je suis tout à fait favorable à la non-prohibition de l'alcool, qui est en France aujourd'hui la drogue qui fait le plus de dégâts.
Merci. Votre livre sur lequel j'ai appuyé cette émission largement s'appelle « L'opium, une passion chinoise, 1750-1950 », publié aux éditions Payot, la collection Histoire, en 2011. Et antérieurement, l'année précédente, vous aviez donné une histoire d'une drogue en sursis. C'est un zoom sur un cas plus particulier. Histoire d'une drogue en sursis, l'opium à Canton entre 1906 et 1936, et aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, votre maison. Je sais que vous prenez quelques distances, Xavier Paulès, par rapport à vos travaux sur l'opium, et que maintenant vous vous intéressez à un jeu chinois spécifique. Peut-être est-ce parce que dans votre enfance, vous avez vu le film fameux Macao en faire du jeu ?
Oui, en fait, je cherche à cerner le phénomène du jeu en Chine en prenant un angle un petit peu original qui consiste à prendre un jeu et essayer d'en faire l'histoire depuis ses origines, qui remonte à l'Antiquité chinoise, jusqu'à aujourd'hui où ce jeu est toujours pratiqué à Macao. D'ailleurs, c'est le seul endroit où il subsiste. Ce jeu s'appelle le Fantan. Et donc, c'est effectivement un jeu qui me paraît particulièrement important parce qu'il est à la jonction entre les jeux traditionnels chinois et les jeux de casino qu'on connaît aujourd'hui, tels que le baccarat, la roulette, le blackjack, etc. Et le Fantan représente un espèce de cas hybride dans lequel un jeu traditionnel chinois s'est transformé à Macao, mais aussi dans le sud de la Chine, en un jeu de casino adapté au casino, qui est une invention européenne du 18e, 19e siècle, qu'on a sous les yeux aujourd'hui, qu'on trouve évident, mais qui n'est pas du tout évident, en fait.
Quelle est la nature de ce jeu ? Vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs ?
Il s'agit d'une espèce de loterie dans laquelle, pour aller résumer vraiment le plus radicalement, il s'agit d'une loterie où on aurait à parier sur un chiffre entre 1 et 4. 1, 2, 3, 4. Et donc, le tirage au sort s'effectue et à la fin, vous avez un numéro qui sort entre 1, 2, 3 et 4 et vous avez gagné si vous avez choisi le bon numéro. Et ceci paraît absolument inintéressant, ceci paraît totalement... primaire, mais en réalité...
J'allais vous le dire, mais je suis trop courtois pour le faire.
En réalité, on s'aperçoit que des gens deviennent passionnés par le Fantan, ils ne jouent qu'au Fantan. Et donc, une des raisons qui m'ont fait m'intéresser à ce jeu, c'est l'explication de ce paradoxe entre un jeu qui paraît totalement inintéressant et l'attrait qu'il a aux yeux d'un certain nombre de personnes.
Merci Xavier Paulès. Samedi prochain, actualité évidente, nous parlerons de l'Ukraine. Et je recevrai l'excellent spécialiste qui est Nicolas Vert. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et par Nathalie Lempereur, réalisée par Patrick Molinier, avec Philippe Bredin à la prise de son, Nathalie Rouvillain qui nous a aidés à la discothèque et Gwen Michel pour les Archivina. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Dominique Rousset, à qui je passe le témoin pour l'économie en question.